Les aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Partie 1 sur 2. Avant-propos. Le voyageur enthousiaste, dont l'album nous fournit cette fantaisie à la manière de Callot, sépare visiblement si peu sa vie intérieure de sa vie extérieure qu'on aurait peine à indiquer d'une manière distincte les limites de chacune. Mais comme il est vrai que toi-même, bienveillant lecteur, tu n'as point de ces limites une idée bien précise, notre visionnaire te les fera peut-être franchir à ton insu. Et ainsi, tu te trouveras lancé tout à coup dans une région étrange et merveilleuse, dont les mystérieux habitants s'introduiront, peu à peu, dans ta vie extérieure et positive. De sorte que vous serez bientôt ensemble à tu et à toi comme de vieux compagnons. Accepte-les pour tels et accommode-toi à leurs singulières allures, de manière à supporter sans peine les légers saisissements que leur commerce immédiat pourra quelquefois te causer. Je t'en prie de toutes mes forces, bienveillant lecteur. Que puis-je faire de plus pour le voyageur enthousiaste, à qui sont arrivés déjà en divers lieux, et particulièrement à Berlin, dans la soirée de Saint-Sylvestre, tant de singulières et folles aventures. Chapitre 1. La bien-aimée. J'avais la mort dans l'âme, la mort froide, et je croyais sentir comme des glaçons aigus s'élancer de mon cœur dans mes veines ardentes. Égaré, je me précipitais sans manteau, sans chapeau, au sein de la nuit épaisse, orageuse. Les girouettes grinçaient. Il semblait que l'on entendît se mouvoir les rouages éternels et formidables du temps, comme si la vieille année allait, tel qu'un poids énorme, se détacher et rouler sourdement dans l'abîme. Tu sais bien que cette époque, Noël et le Nouvel An, que vous accueillez, vous, avec une satisfaction calme et pure, vient toujours me précipiter hors de ma paisible demeure, dans les flots d'une mer écumante et furieuse. Noël, ce sont des jours de fête dont l'éclat aimable me séduit longtemps d'avance. À peine puis-je les attendre. Je suis meilleur, plus enfant que tout le reste de l'année. Mon cœur, ouvert à toutes les joies du ciel, ne peut nourrir aucune pensée noire ou haineuse. Je redeviens un jeune garçon, avec sa joie vive et bruyante. Parmi les étalages bigarrés, éclatants, des boutiques de Noël, je vois des figures d'anges me sourire, et à travers le tumulte des rues, les soupirs de l'orgue saint m'arrivent comme de bien loin, car un enfant nous est né. Mais la fête achevée, tout ce bruit s'abat, tout cet éclat se perd dans une sourde obscurité. À chaque année, toujours des fleurs qui se flétrissent et dont le germe se dessèche sans espoir qu'un soleil de printemps ranime jamais leurs rameaux. Certes, je sais fort bien cela, mais une puissance ennemie, chaque fois que l'on touche à sa fin, ne manque jamais de me le rappeler avec une satisfaction cruelle. « Vois, murmure-t-elle à mon oreille, vois combien de plaisirs cette année t'ont abandonné pour toujours. » Mais aussi, tu es devenu plus sage, Tu n'attaches désormais aucun prix à des divertissements frivoles. Te voilà de plus en plus un homme grave, un homme sans plaisir. Le diable me réserve toujours pour le soir de Saint-Sylvestre un singulier régal de fête. Il prend bien son temps, puis s'en vient avec un rire odieux déchirer mon sein de ses griffes aiguës et se repaître du plus pur sang de mon cœur. Il se sert à cet effet de tout ce qui se présente, témoin hier encore le conseiller de justice qui se trouva être l'instrument qu'il lui fallait. Il y a toujours chez lui, chez le conseiller, grande réunion le soir de Saint-Sylvestre. Il a la fureur alors de vouloir ménager à chacun une surprise agréable pour la nouvelle année et s'y prend d'une manière si gauche et si stupide que tous les plaisirs qu'il avait imaginés, à grand-peine, aboutissent d'ordinaire à un désappointement ridicule et pénible. Dès que j'entrais dans l'antichambre, le conseiller de justice se hâta de venir à ma rencontre, m'arrêtant à la porte du sanctuaire d'où partaient les vapeurs du thé accompagnées de parfums exquis. Il sourit d'une façon singulière et me dit, avec tout l'air de finesse bienveillante qu'il put se donner, « mon bon ami, quelque chose de délicieux vous attend dans le salon. Une surprise admirable, digne de la belle soirée de Saint-Sylvestre. N'allez pas vous effrayer. » Ces mots me tombèrent lourdement sur le cœur. De sombres pressentiments s'en élevèrent et je me sentis cruellement oppressé. Les portes s'ouvrirent, je me précipitai rapidement dans le salon et sur le sofa, au milieu des dames, son image radieuse s'offrit à moi. C'était elle, elle-même que je n'avais point vue depuis tant d'années. Tous les heureux moments de ma vie repassèrent soudain dans mon âme comme un éclair rapide et puissant. Plus d'éloignement funeste, bien loin même l'idée d'une séparation nouvelle. Par quelque hasard merveilleux se trouvait-elle de retour? Quel rapport existait-elle entre elle et la société du conseiller qui ne m'avait jamais appris qu'il l'a connue? Je ne m'arrêtais point un instant à ces pensées, je la retrouvais enfin! Immobile tel qu'un homme frappé de la foudre, voilà comme j'étais sans doute. Le conseiller me poussa doucement. « Allons, mon ami !» Machinalement, je m'avançais. Mais je ne voyais qu'elle et de mon sein oppressé, ses mots purent s'échapper à peine. « mon Dieu, Julie ici ?» J'étais auprès de la table à thé. Ce fut alors seulement que Julie m'aperçut. Elle se leva et me dit, du ton qu'on parlerait à un étranger, « Je me réjouis beaucoup de vous rencontrer ici. Votre santé paraît bonne. » Puis, elle se rassit et s'adressant à une dame auprès d'elle, « Aurons-nous au théâtre quelque chose d'intéressant la semaine qui vient ?»« Tu t'approches d'une fleur charmante qui éclatait à tes yeux au milieu de parfums suaves et voluptueux, mais au moment où tu te penches pour en admirer les vives couleurs, voilà qu'un froid et venimeux basilic s'élance de sa corolle enflammée pour te lancer la mort avec ses yeux perfides. C'est ce qui venait de m'arriver. Je saluai gauchement les dames et pour ajouter encore le ridicule à ma profonde douleur, je coudoyais, en me retournant rapidement, le conseiller de justice qui se trouvait derrière moi et lui jetais hors des mains une tasse de thé fumant sur son jabot admirablement bien plissé. On rit de l'infortune du conseiller et plus encore de ma maladresse. Ainsi tout, ce soir-là, tendait à me rendre excessivement bouffon et je me résignais en homme à ma destinée. Julie n'avait point ri. Mes regards égarés rencontrèrent les siens et ce fut comme si un rayon du bonheur d'autrefois, de cette vie tout amour et de poésie, revenait me sourire encore. Quelqu'un qui commença à improviser sur le piano dans la chambre voisine mit alors en mouvement toute la société. C'était, disait-on, un virtuose étranger nommé Berger, qui jouait divinement et à qui l'on devait toute son attention. « Ne fais donc pas sonner ainsi ta cuillère à thé, Mimi !» s'écria le conseiller. et inclinant légèrement la main du côté de la porte, il invita les dames avec un agréable « Eh bien !» à s'approcher du virtuose. Julie aussi s'était levée et se dirigeait lentement vers la salle voisine. Tout en elle avait pris je ne sais quel caractère étrange. Il me sembla qu'elle était plus grande qu'autrefois et que ses formes s'étaient développées de manière à ajouter merveilleusement à sa beauté. La coupe singulière de sa robe blanche et surchargée de plis qui ne couvraient qu'à moitié sa gorge, son dos et ses épaules, ses vastes manches qui se rétrécissaient aux coudes, sa chevelure séparée sur le front et répandue derrière sa tête en tresses multipliées, lui donnaient quelque chose d'antique. Elle rappelait les vierges des peintures de Mieris. Et pourtant, il me semblait avoir vu quelque part, de mes yeux bien ouverts, cet être en qui Julie s'était transformée. Elle avait ôté ses gants et rien ne lui manquait, pas même les bracelets d'un merveilleux travail attachés au-dessus de la main, pour ressembler complètement à cette image d'autrefois qui m'assaillait toujours plus vivante et plus colorée. Julie se tourna vers moi avant d'entrer dans le salon voisin, et je crus m'apercevoir que cette figure angélique, jeune et pleine de grâce, se contractait dans une amère ironie. Quelque chose d'horrible, de délirant s'empara de moi et fit frémir convulsivement tous mes nerfs. « Oh, il joue divinement bien !» murmura une demoiselle animée par une tasse de thé bien sucrée. Et je ne sais comment il se fit que son bras se trouva passé dans le mien et que je la conduisis, ou plutôt qu'elle m'entraîna dans la salle voisine. Berger faisait alors mugir le plus furieux ouragan. Ses accords puissants s'élançaient et retombaient comme les vagues d'une mer en furie. Cela me fit du bien. Julie se trouvait à mon côté et me disait de sa voix d'autrefois, la plus douce et la plus tendre, « Je voudrais te voir au piano et que tu chantasses l'espérance et le bonheur qui sont passés. » L'ennemi s'était retiré de moi et, dans ce seul mot, « Julie », j'aurais voulu exprimer toute la félicité du ciel qui me revenait. D'autres personnes, en passant entre nous, m'éloignèrent d'elle. Il était clair qu'elle m'évitait maintenant, mais je parvins tantôt à respirer sa douce haleine, tantôt à effleurer son vêtement et l'aimable printemps que j'avais cru à jamais passer ressuscitait, paré de couleurs éclatantes. Berger avait laissé s'abattre la tempête. Le ciel s'était éclairci et, semblable aux petits nuages dorés du matin, de vaporeuses mélodies nageaient mollement dans le pianissimo. Le virtuose reçut, en terminant, des applaudissements unanimes et bien mérités. Puis, l'assemblée se mêla confusément de sorte que je me retrouvais auprès de Julie. J'avais l'esprit animé. Je voulus la saisir, l'embrasser dans le transport de ma douloureuse passion, mais la maudite figure d'un valet importun surgit tout à coup entre nous deux. « Peut-on vous offrir ?» nous dit-il d'une voix désagréable en présentant un vaste plateau. Au milieu des verres, remplis d'un punch fumant, s'élevait une coupe artistement ciselée, remplie de la même liqueur à ce qu'il paraissait. Comment cette coupe se trouva parmi ces verres? C'est ce que sait mieux que moi celui que j'apprends de plus en plus à connaître, celui qui, en marchant, décrit toujours avec son pied, comme Clément dans Octavien, des crochets fort bizarres et qui aime par-dessus tout les manteaux rouges et les plumes rouges. Julie prit cette coupe ciselée, qui brillait d'un éclat singulier, et me l'offrit en disant « Recevras-tu encore ce breuvage de ma main, aussi volontiers qu'autrefois ?»« Julie, oh, Julie !» m'écriai-je en soupirant. En saisissant la coupe, j'effleurai ses doigts délicats. Des étincelles électriques pétillèrent en parcourant mes artères et mes veines. Je buvais et je buvais toujours. Il me semblait que de petites langues de feu bleuâtre voltigeaient à la surface du verre et autour de mes lèvres. La coupe était vidée, et j'ignore moi-même comment il se fit que je me trouvais dans un cabinet éclairé par une lampe d'albâtre, assis sur une ottomane, et Julie, Julie à mes côtés, qui me souriait avec son regard d'enfant, comme autrefois. Berger s'était remis au piano. Il jouait l'andante de la sublime symphonie en mi bémol de Mozart, et, enlevée sur les ailes puissantes de l'harmonie, mon âme retrouvait ses plus beaux jours d'amour et de bonheur. Oui, oui, c'était Julie. Julie elle-même, belle et douce comme les anges. Notre entretien, complainte d'amour passionné, avait plus de regard que de paroles. Sa main était dans la mienne. Désormais, je ne te quitte plus. Ton amour est l'étincelle qui va rallumer en moi une vie plus élevée dans l'art et dans la poésie. Sans toi, sans ton amour, tout est froid, tout est mort. Mais n'es-tu donc pas revenu afin de m'appartenir pour toujours ? En ce moment, il entra, en se dandinant lourdement, une longue figure aux jambes d'araignée, avec des yeux sortant de la tête comme ceux des grenouilles, qui, souriant d'un air coquet, criait de sa petite voix aigre « Mais où diantre ? Et donc restée ma femme ?» Julie se leva et me dit, d'un ton de voix qui n'était plus la sienne, « Retournons vers la compagnie, mon mari me cherche. » Vous avez été encore fort amusant, mon cher ami. C'est toujours la même humeur fantasque et capricieuse qu'autrefois. Seulement, ménagez-vous sous le rapport de la boisson. » Et le petit maître, aux jambes d'araignée, lui prit la main. Elle le suivit en riant dans le salon. « Perdu à jamais !» m'écriai-je. « Eh, sans doute, Codille, mon cher !» observa une bête qui jouait à l'ombre. Je me précipitai dehors, dehors, dans la nuit orageuse. Chapitre 2. La société dans le cabaret. Il peut être fort agréable de se promener de long en large sous les tilleuls, mais non pas dans la nuit de Saint-Sylvestre, par un froid suffisant et une neige battante. C'est une réflexion que je fis étant nu-tête et sans manteau, quand je sentis un vent glacé envelopper mon corps tout brûlant de fièvre. Je traversai dans cet état le pont de l'Opéra. Et passant devant le château, je me détournai et je pris par le pont des Écluses en laissant la monnaie derrière moi. J'arrivai dans la rue des Chasseurs, près du magasin de Tiermann. Les appartements étaient fort bien éclairés. J'allais entrer car j'étais transi de froid et je sentais le besoin de m'abreuver à longs traits de quelques liqueurs fortes. En ce moment, une société tout animée d'une joie bruyante se précipita hors de la maison. Il parlait d'huîtres superbes et de l'excellent vin de la comète de 1811. « Il avait bien raison !» s'écria l'un d'eux, que je reconnus pour un officier supérieur des Uhlans. « Celui qui, l'an passé, à Mayence, pestait contre ces faquins d'aubergistes qui n'avaient pas voulu absolument, en 1794, lui servir de leur vin de 1811. » Tous riaient à gorge déployée. J'étais allé involontairement quelques pas plus loin et je me trouvais devant un cabaret éclairé d'une seule lumière. Le Henri IV de Shakespeare ne se vit-il pas, réduit un jour, à un tel degré de lassitude et d'humilité que la pauvre créature nommée Petite Bière lui vint à l'esprit ? Dans le fait, pareille chose m'arriva. J'avais soif d'une bouteille de bonne bière anglaise et je descendis rapidement dans le cabaret. « Que désirez-vous ? » dit l'aubergiste, s'avançant d'un air agréable et la main à son bonnet. Je demandai une bouteille de bonne bière anglaise, avec une pipe d'excellent tabac, et je me trouvai bientôt dans une quiétude si sublime que la force fut au diable lui-même de me respecter et de me laisser quelque repos. Ô conseiller de justice, si tu m'avais vu au sortir de ton brillant salon dans un obscur cabaret, buvant au lieu de thé de la petite bière, tu te serais détourné de moi avec un orgueilleux dédain. Est-il donc étonnant, aurais-tu murmuré, qu'un pareil homme soit dans le cas de ruiner les jabots les plus délicieux? Sans chapeau, sans manteau, je devais être pour ces gens un sujet d'étonnement. L'hôte avait une question sur les lèvres quand on frappa à la fenêtre. Une voix cria d'en haut. « Ouvrez, ouvrez, me voici !» L'hôte se hâta de monter et rentra bientôt, élevant dans ses mains deux flambeaux. Un homme fort grand et fort maigre descendit après lui. En passant sous la porte fort basse, il oublia de se baisser et se heurta assez rudement. Mais un bonnet noir en forme de barrette qu'il portait le préserva de tout accident. Il eut soin de passer le plus près possible de la muraille et s'assit en face de moi pendant que l'on plaçait les lumières sur la table. On pouvait bien dire de lui qu'il avait un air distingué et mécontent. Il demanda, d'un ton de mauvaise humeur, une pipe et de la bière. Et à peine avait-il rendu quelques bouffées de tabac qu'un nuage épais de fumée nous enveloppa. Sa figure avait au reste quelque chose de si caractéristique et de si attrayant que j'en fus charmé tout d'abord, malgré sa mine sombre. Sa chevelure noire et épaisse, séparée sur son front, se répandait des deux côtés en une profusion de petites boucles, ce qui lui donnait quelque ressemblance avec les portraits de Rubens. Quand il se fut débarrassé de son vaste manteau, je m'aperçus qu'il était vêtu d'un kurtka noir avec des tresses nombreuses. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'il portait, par-dessus ses bottes, de fort belles pantoufles. Je remarquai cela pendant qu'il secouait sa pipe, fumée en 5 minutes. Notre conversation avait peine à se lier. L'étranger semblait très occupé d'un grand nombre de plantes singulières qu'il avait tirées d'un étui et qu'il examinait avec soin. Je lui témoignais mon étonnement de voir d'aussi belles plantes et lui demandais, comme elles paraissaient toutes fraîches, s'il les avait recueillies au jardin botanique ou chez Boucher. Il sourit d'une manière assez étrange et répondit « Vous ne me paraissez pas fort sur la botanique. Autrement, vous ne m'auriez point aussi... » Il hésita. J'ajoutai à mi-voix, sottement « questionné », termina-t-il d'un ton de franchise bienveillante. « Vous auriez, poursuivit-il, reconnu du premier coup d'œil que ce sont là des plantes alpestres qui ne croissent que sur le Chimborazo ?» L'étranger prononça ces mots presque à voix basse, et tu peux penser qu'ils me causèrent une singulière émotion. Les questions expiraient sur mes lèvres, mais une sorte de pressentiment s'élevait en moi, et je me figurais que si je n'avais pas vu souvent l'étranger, je l'avais du moins souvent rêvé. On frappa de nouveau à la fenêtre. L'hôte ouvrit, et une voix cria « Ayez la bonté de couvrir votre miroir !»« Ah ah !» dit l'hôte, « c'est le général Suvaro qui vient bien tard. » L'hôte couvrit son miroir et aussitôt sauta avec une rapidité assez maladroite, ou mieux, avec une légèreté assez pesante, un petit homme grêle enveloppé d'un manteau d'une couleur brune singulière qui formait 1000 plis et un grand nombre d'autres plus petits encore et flottant autour de sa taille d'une manière si étrange qu'à la lueur des flambeaux, on eût cru voir plusieurs formes se déployer et se replier sur elles-mêmes, comme dans les fantasmagories d'Hensler. Il se mit à frotter ses mains, cachées dans ses longues manches, et s'écria « Froid, froid, oh, qu'il fait froid! En Italie, c'est bien différent, bien différent !» Il finit par prendre place entre moi et mon grand voisin, disant « Cette fumée est insupportable, tabac contre tabac. Si j'avais une prise seulement !» La tabatière de métal poli dont tu m'as fait cadeau se trouvait dans ma poche. Je la tirais afin d'offrir du tabac au petit étranger. À peine l'aperçut-il qu'il la repoussa violemment des deux mains en s'écriant «
loin, bien loin, cet odieux miroir.
Sa voix avait quelque chose d'effrayant. Et quand je le regardais tout étonné, il était entièrement différent de ce qu'il m'avait paru d'abord. Il avait sauté dans la salle avec une physionomie agréable et toute jeune, mais il présentait maintenant le visage ridé, pâle comme la mort d'un vieillard aux yeux caves. Saisi d'effroi, je m'élançai vers le plus grand des deux étrangers.
« Au nom du ciel, regardez donc »
allais-je m'écrier. Mais lui, absorbé dans l'examen de ses plantes, n'avait rien vu de ce qui venait de se passer. Et dans le même instant, le petit cria
« Vin du Nord !»
avec son ton un peu précieux. Bientôt, l'entretien commença entre nous. Le petit me déplaisait assez, mais le grand savait parler sur les choses les moins importantes en apparence avec beaucoup de profondeur et d'agrément. Quoiqu'il eût à lutter sans cesse contre une langue qui n'était pas la sienne et qu'il se servît souvent de mots impropres, ce qui, du reste, donnait à son langage une originalité piquante, de sorte que, tout en m'inspirant pour lui-même un sentiment d'estime et d'amitié, il affaiblissait aussi l'impression désagréable que le petit homme m'avait fait éprouver. Ce dernier semblait supporté par des ressorts, car il s'agitait, ça et là, sur sa chaise, gesticulant beaucoup des mains. Mais une sueur glacée découla de mes cheveux sur mon dos, quand je m'aperçus clairement qu'il me regardait avec deux visages différents. Et surtout, il considérait souvent, avec son vieux visage, quoique moins horriblement qu'il ne m'avait fixé d'abord, l'autre étranger, dont l'air paisible contrastait avec sa perpétuelle mobilité. Dans cette mascarade de notre vie d'ici-bas, souvent l'esprit regarde avec des yeux pénétrants au travers des masques et reconnaît ceux qui sont de sa famille. C'est de cette manière que, si différents du reste des hommes, nous nous regardâmes et nous reconnûmes tous trois dans ce cabaret. Dès lors, notre entretien prit ce caractère sombre qui ne convient qu'aux âmes blessées à mort pour jamais. « C'est encore un clou dans cette vie, » dit le grand. « Ah, Dieu !» repris-je, « le diable n'en a-t-il pas enfoncé partout à notre intention, dans les murs de nos demeures, dans les bosquets, dans les buissons de roses? Où pouvons-nous passer sans y laisser accrocher quelques lambeaux de nous-mêmes? Il me semble, mes dignes compagnons, que nous ayons tous perdu quelque chose de cette manière. Moi, par exemple, il me manque cette nuit mon chapeau et mon manteau. Tous deux sont pendus à un clou dans l'antichambre du conseiller de justice, comme vous savez bien. » Le petit homme et le grand tressaillirent à la fois, comme frappés du même coup à l'imprévu. Le petit me regarda en grimaçant, avec sa plus laide figure, puis, sautant rapidement sur une chaise, il alla raffermir la toile qui couvrait le miroir, pendant que l'autre mouchait les chandelles avec soin. Notre entretien eut peine à se renouer. Nous en vîmes cependant à parler d'un jeune peintre fort distingué, nommé Philippe, et du portrait d'une princesse qu'il avait exécutée admirablement, inspirée dans son œuvre par le génie de l'amour, et par cet ineffable désir des choses d'en haut qu'il avait puisé dans l'âme profondément religieuse de celle qu'il aimait. « Il est tellement ressemblant, » dit le plus grand étranger, « que c'est moins son portrait que le reflet de son image. »« C'est vrai ? » m'écriai-je. « On le dirait volé dans un miroir. » Le petit homme se leva tout d'un coup, me regardant furieusement avec son vieux visage dont les yeux lançaient du feu. « Cela est absurde !» s'écria-t-il. « Cela est insensé ! Qui pourrait dérober une image dans un miroir ? Qui le pourrait ? Le diable, peut-être, à votre avis ? Oh, frère, celui-là brise la glace avec ses lourdes griffes et les mains blanches et frêles d'une image femme se couvrent de blessures et de sang. Montre-moi l'image volée dans un miroir, et je fais devant toi le saut de carpe de 1000 toises de haut. Entends-tu, misérable drôle ?» Le grand se leva à son tour, s'élança vers le petit et lui dit « Ne faites donc pas tant d'embarras, mon ami, ou vous vous ferez jeter du bas de l'escalier en haut. Je crois, du reste, que votre reflet à vous est dans un misérable état.
« Ah ! s'écria le petit, en riant dédaigneusement et avec une sorte de frénésie.
« Crois-tu, j'ai du moins encore ma belle ombre, pitoyable faquin, j'ai encore mon ombre. »
À ces mots, il sauta dehors du cabaret, et nous l'entendîmes encore qui éclatait de rire et criait dans la rue « J'ai encore mon ombre, mon ombre !»
Le grand était retombé, anéanti et tout blême sur sa chaise, la tête dans ses deux mains et sa poitrine oppressée exhalait à grand-peine un profond soupir.
« Qu'avez-vous ? » lui demandai-je avec intérêt.
« Oh, monsieur, ce vilain homme qui en a si mal agi avec nous, qui m'a relancé jusque dans ce cabaret, ma retraite ordinaire où j'aime à rester seule, à peine visitée de temps à autre par quelque gnome qui vient s'accroupir sous la table et grignoter quelques miettes de pain, ce méchant homme m'a replongé dans ma plus cruelle infortune. Hélas, j'ai perdu, à jamais perdu mon...
Adieu !»
Il se leva et traversa le caveau pour sortir. Tout restait éclairé autour de lui. Il ne projetait aucune ombre.
Je m'élançai à sa poursuite avec transport.
« Pierre Schlemihl ! Pierre Schlemihl ! » m'écriai-je tout joyeux. Mais il avait jeté ses pantoufles. Je le vis enjamber par-dessus la caserne des gendarmes et disparaître dans l'obscurité.
Lorsque je voulus rentrer dans le caveau, l'homme, l'hôte, me jeta la porte au nez en s'écriant
« Le bon Dieu me garde de pareil hôte !»
Chapitre 3 Apparition. Monsieur Mathieu est mon ami, et son portier est un homme vigilant qui m'ouvrit dès que j'eus tiré le cordon de la sonnette à l'aigle d'or. J'expliquai comment je m'étais échappé d'une société sans chapeau et sans manteau. Mais dans ce dernier, j'avais oublié la clé de mon logis et il était impossible d'éveiller ma vieille et sourde servante. Cet homme aimable, c'est du portier que je parle, m'ouvrit une chambre, y déposa de la lumière et me souhaita une bonne nuit. Une belle et large glace était couverte d'une toile. Je ne sais moi-même comment l'idée me vint d'enlever cette toile et de poser les deux lumières sur un meuble devant la glace. En m'y regardant, je m'y trouvais si pâle et si défait que j'eus peine à me reconnaître. Il me semblait voir flotter vaguement au fond du miroir une figure confuse, mais en fixant davantage sur elle mes yeux et mon attention, je vis, au milieu d'une lueur magique et singulière, se débrouiller et se développer les traits d'une femme ravissante. Je reconnus Julie. Entraînée par la passion, consumée de désir, je soupirais tout haut. En ce moment, j'entendis soupirer et gémir sous les rideaux d'un lit, dans le coin le plus reculé de la chambre. J'écoutais. Les gémissements redoublaient. L'image de Julie avait disparu.
Je pris bravement une lumière. J'entrouvis les rideaux et regardai dans le lit. Comment te dépeindrais-je ce que j'éprouvais en apercevant mon petit homme du caveau qui me laissait voir sa figure de jeune homme, il est vrai, mais contractée par la douleur et qui s'écriait tristement pendant son sommeil « Giulietta !» Ce nom tomba comme du feu dans mon âme. L'effroi m'avait quitté. Je saisis le bras du petit homme et le secouai rudement. « Hé, mon ami !» lui criai-je. « Comment vous trouvez-vous dans ma chambre? Éveillez-vous et allez-vous-en, s'il vous plaît, à tous les diables !» Le petit homme ouvrit les yeux et me regarda d'un air sombre. « C'était un mauvais rêve que j'ai fait là, » me dit-il. « Je vous remercie de m'avoir éveillé. » Ces mots ne résonnèrent que comme de légers soupirs. Je ne sais comment il se fit que le petit me parut maintenant tout autre, mais sa souffrance pénétra dans mon âme et changea toute ma colère en une profonde douleur. Il ne fallut échanger que peu de mots pour me persuader que le portier m'avait ouvert par mégarde le même appartement dont le petit homme avait déjà pris possession et que c'était moi qui avais manqué à la bienséance en troublant son sommeil. « Monsieur, me dit-il, j'ai dû vous paraître au caveau bien extravagant et bien fou, attribuer ma conduite à un vertige insensé qui, je ne puis le nier, s'empare quelquefois de moi et me pousse au-delà des bornes de la raison et de la bienséance. Ne vous arrive-t-il jamais rien de semblable ?»« Mon Dieu, si !» repris-je d'un air découragé. « C'est moins ce soir encore, quand je retrouvais Julie. »« Julie ?» s'écria le petit homme d'une voix désagréable. Un spasme tirailla son visage, qui redevint vieux à l'instant. « Oh, laissez-moi dormir. Couvrez, s'il vous plaît, le miroir, mon cher ami. » Il dit ces mots en regardant son oreiller, d'un air abattu. « Monsieur, lui dis-je, le nom d'un objet adoré et à jamais perdu pour moi semble éveiller en vous de singuliers souvenirs. De plus, vous changez à tout moment d'une manière fort étrange les traits infiniment aimables de votre physionomie. Toutefois, j'espère passer tranquillement la nuit avec vous, condition à laquelle je vais couvrir le miroir et me mettre au lit. » Le petit homme se redressa. Sa figure, redevenue jeune, fixa sur moi des regards pleins de douceur et de bonté. Il saisit ma main et la pressa doucement. « Dormez tranquille, monsieur, » me dit-il. « Je suppose que nous sommes compagnons d'infortune. Auriez-vous aussi... » « Julie. »« Giulietta, il en sera ce qu'il voudra. Vous exercez sur moi une influence irrésistible. Je m'y opposerai en vain. Il faut que je vous découvre mon triste secret. » Et puis vous me haïrez, vous me mépriserez. » À ces mots, le petit homme se leva lentement, s'enveloppa d'une vaste robe de chambre blanche et se glissa sans bruit comme un fantôme vers la glace devant laquelle il s'arrêta. Hélas, le miroir réfléchissait clairement les deux lumières et tous les objets de la chambre, et moi-même aussi. Mais la figure du petit n'apparaissait sur aucun point de la surface polie, bien qu'il fût entièrement penché sur elle. Il se retourna vers moi, le désespoir sur tous ses traits. Il me serra les mains. « Vous connaissez maintenant ma misère sans bornes, » dit-il. « Schlemil, cette âme pure et bonne et digne d'envie au prix de moi, réprouvée. Il a follement vendu son ombre, mais moi, j'ai donné mon reflet. À elle. À elle. Oh. Oh. » Ainsi, gémissant profondément, les mains devant les yeux, le petit homme chancela vers le lit dans lequel il se jeta promptement. Je restai là immobile. Défiance, mépris, horreur, compassion, pitié, je ne sais quel sentiment encore s'élevait dans mon âme pour et contre le petit homme. Dans cet intervalle, il se prit à ronfler d'une manière si touchante et si mélodieuse que je ne pus résister à la virtuose dormitiva de sa musique. Je me hâtais de couvrir le miroir, j'éteignis les lumières, je me jetais dans le lit à côté du petit homme et ne tardais pas à dormir d'un profond sommeil. Il pouvait être le matin quand une lueur éblouissante me réveilla. J'ouvris les yeux et vis mon petit compagnon assis à table, vêtu de sa robe de chambre, un bonnet de nuit sur la tête, le dos tourné vers moi, et écrivant assidûment à la lueur des deux flambeaux. Il avait l'air bien fantastique. Je frissonnais. Un songe m'enleva sur ses ailes et me porta de nouveau chez le conseiller de justice, où je me retrouvais assis sur l'ottomane, auprès de Julie. Mais bientôt, il me sembla que toute la société n'était qu'un assemblage de figures grotesques étalées pour la foire de Noël chez Fourtz, Weide, Chocre ou ailleurs. Le conseiller de justice, entre autres, était une charmante poupée de sucre candi avec un jabot de papier. Les arbres, les touffes de rosiers grandissaient. Julie se leva et me présenta la coupe de cristal sur laquelle dansaient des flammes bleuâtres. Je me sentis tirée par le bras. C'est mon petit homme qui se tient derrière moi avec sa figure vieillotte et qui me dit « Ne bois pas, regarde-la bien. Ne l'as-tu pas déjà vu sur les tableaux mystérieux de Bruegel, de Callot, de Rembrandt ?» Je frissonnais à la vue de Julie. Car dans sa robe à plis nombreux, avec ses larges manches, avec sa coiffure, elle ressemblait à ces vierges séduisantes que l'on voit entourées des monstres de l'enfer sur les tableaux de ses maîtres. « Que crains-tu donc ?» me dit Julie. « Tu m'appartiens déjà sans retour, toi et ton reflet. » Je saisis la coupe, mais mon petit homme s'élança sur mes épaules sous la forme d'un écureuil et de sa queue battant les flammes, il criait d'une voix aigre. « Ne bois pas ! Ne bois pas !» Mais, tout à coup, toutes les figures de l'étalage devinrent vivantes et remuèrent drôlement leurs mains et leurs jambes. Le conseiller de sucre candi frétillait autour de moi et me disait d'une toute petite voix flûtée « Pourquoi donc tout ce bruit, mon ami ? Pourquoi donc tout ce bruit ? Remettez-vous, je vous prie, sur vos chères jambes, car je remarque depuis longtemps que vous marchez en l'air par-dessus les chaises et les tables. » Le petit avait disparu. Julie ne tenait plus la coupe dans ses mains. « Pourquoi donc ne voulais-tu pas boire ? » dit-elle. « Cette flamme brillante et pure qui sortait de la coupe, n'était-elle pas le baiser tel que je te le donnais autrefois ?» Je voulus la presser sur mon cœur, mais Schlemihl se jeta entre nous et dit « Ceci est Mina qui a épousé Rascal. » Il avait écrasé en courant quelques-unes des poupées de sucre. Elles gémirent d'une lamentable façon. Mais bientôt, les figures se multiplièrent par centaines, par milliers, leur foule bruyante, agitée, bigarrée et hideuse à voir, trépignait autour de moi et sur moi et bourdonnait comme un essaim d'abeilles. Le conseiller de justice en sucre candi avait grimpé jusqu'à ma cravate et il la serrait. « Maudit conseiller de sucre candi !» m'écriai-je tout haut, et je m'éveillais. Il était grand jour, 11 heures du matin. Toute cette affaire avec ce petit homme n'était autre chose qu'un rêve, pensais-je, quand le sommelier, qui m'apportait à déjeuner, me dit que l'étranger, qui avait dormi dans la même chambre que moi, était reparti de grand matin et me faisait saluer. Sur la même table, devant laquelle mon petit homme était assis pendant la nuit, sentant le fantôme d'une lieue, je trouvais un papier fraîchement écrit que je t'envoie, car il contient, sans aucun doute, la merveilleuse histoire du petit homme.